Dans le cadre des 150 ans de sa fondation, la communauté Notre-Dame de Belloc et Radio La Pourdire à Thiers organisaient une conférence débat samedi 22 novembre au monastère Sainte-Scolastique sur le thème « L'alimentation, question d'aujourd'hui, enjeu pour demain ». Cette conférence débat abordait les questions de la production alimentaire, de l'alimentation et de la santé, ainsi que des politiques alimentaires. Elle était animée par le frère Jean-Michel Bortheyri, juste après le mot d'introduction du frère Jean-François Prieur de la communauté des moines de Belloc, que nous écoutons.
Chers amis, vous voici venus pour cette conférence débat sur la question de l'alimentation. Nous avons organisé cette conférence dans le cadre des 150 ans de la fondation de notre communauté des moines de Belloc. Vous savez bien que les moines, de par le travail de la terre, vivent de ce travail des mains, mais aussi font profiter toute une région, tout un voisinage, tout un pays, des recherches qui produisent au cœur même soit de leur jardin potager, au cœur même de leurs exploitations agricoles, au cœur même de leurs bergeries, de leurs élevages. Aujourd'hui, le temps est venu pour développer cette conférence en ayant le souci de demain, nous projeter pour demain, avoir ce projet de la question de l'alimentation pour demain. Bien sûr, nous n'allons pas tout traiter, nous n'allons pas tout régler, mais nous allons prendre un peu plus conscience de la manière de nous nourrir, de ce qui est souhaitable dans ce domaine, pour notre monde, pour aujourd'hui et pour demain. Aussi, je voudrais remercier frère Jean-Michel qui fera une communication à ce sujet, Isabelle aussi, et puis une lecture d'une personne, d'une très jeune personne, l'adolescente, sur cette question de l'alimentation. Mais avant de commencer cette conférence, je voudrais d'abord faire mémoire d'un ami, qui est sûrement votre ami, Alexandre Aguerre. Car ce qui se passe aujourd'hui, ici à Belloc, au monastère des Bénédictins, des Bénédictines, on le doit aussi à lui, parce qu'il est un animateur, et il fut un grand animateur et un grand ami de nos deux communautés. Et c'est avec Alexandre que nous avions initié l'an dernier cette conférence sur l'agriculture et cette année, cette conférence débat sur les questions d'aujourd'hui, les enjeux pour demain sur le thème de l'alimentation. Nous rappelons aussi que le 14 juillet dernier, Alexandre a été la cheville ouvrière du pèlerinage des communautés du Pays Basque à Belloc. Et il avait joué, dans les deux sens du mot, un rôle, mais aussi sur l'orgue, des accords qui nous frappent encore les oreilles, tellement son cœur y était. Moins de 3 mois après, Alexandre nous a prématurément quittés. Pour certains, vous vous rappelez les obsèques, le 13 octobre à Espelette. Mais aujourd'hui, nous allons prendre une minute de silence à la mémoire d'Alexandre Aguerre.
Chers amis, après l'évocation de notre ami Alexandre, on peut dire que nous pouvons commencer notre conférence, plus spécifiquement, sur le thème donc de l'alimentation, question d'aujourd'hui, enjeu pour demain. Et je voudrais d'abord exprimer, donc le frère Jean-Michel, comment le monastère de Belloc a une longue tradition agricole, parce que cette communauté qui était née il y a 150 ans a en fait toujours vécu de l'agriculture. Elle a regroupé cette communauté jusqu'à une centaine de moines habitant sur place, sans compter les élèves de l'école, et ça faisait bien du monde à nourrir, bien entendu. Mais, sans faire un historique complet de cet événement, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, la communauté, pouvait-on dire, était autosubsistante pour son alimentation. Elle avait alors, d'ailleurs d'autres activités économiques, elle avait une minoterie, une chocolaterie qui ont disparu à présent, mais elle cultivait jusqu'à assez récemment un jardin potager de 1,5 hectare. Le verger qui avait aussi la même taille, la vigne, des animaux d'élevage, surtout pour le lait, les bovins, les ovins, mais aussi des porcins et aussi de la volaille. Selon des traditions culturelles de la région et les techniques d'élevage communes. À partir de la fin des années 1960, ce modèle s'est modifié avec la transformation du lait de brebis en fromage, et ceci a amené une valeur ajoutée à la production, bien sûr, et sans doute aussi un partage plus grand des ressources et une transformation aussi du monastère. Mais on pourrait aujourd'hui voir quelles sont les questions qui se posent à l'alimentation en général. Aujourd'hui, l'alimentation est devenue un véritable enjeu de société. Pourquoi ? Parce que cet enjeu recouvre de multiples dimensions, une dimension sociale, une dimension territoriale, une dimension sanitaire, éducative, également environnementale ou climatique. Nous sommes à la fin de la COP30. Et aussi une dimension culturelle. Et si on observe la problématique alimentaire qui se pose aujourd'hui, elle va englober plusieurs enjeux cruciaux, et je voudrais en citer simplement quelques-uns. D'abord, le système alimentaire. Le système alimentaire relie les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et aussi les consommateurs que nous sommes. Aussi, les pratiques alimentaires, pour qu'elles soient durables, pour réduire l'impact sur l'environnement. Encore, la sécurité alimentaire, qui implique que toutes les personnes aient accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive. Et ce problème de sécurité alimentaire est couplé au problème de la précarité alimentaire, alors que des millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, et ce qui aggrave l'accès à une alimentation saine. Et cette alimentation saine pour tous, eh bien, va se réguler par des politiques publiques d'éducation, de santé, de production agricole. Donc, une fois qu'on a cité tous ces enjeux cruciaux, je vais citer un premier point. Premier point, c'est ce que chacun peut constater. Dans le budget de nombre croissant de ménages, l'alimentation est devenue progressivement ce qu'on appelle une variable d'ajustement. C'est-à-dire que les dépenses d'alimentation d'un ménage sont passées dans les années 60 à peu près de plus d'un tiers, même 35% en 60, à peine un peu plus d'un cinquième aujourd'hui, 22% en 2024. Et les ménages confrontés à une baisse du pouvoir d'achat, à des dépenses contraintes, à forte augmentation, c'est-à-dire des dépenses de logement, et puis dans une moindre mesure l'énergie, le transport, eh bien et aussi la période d'inflation qui nous a précédé a aggravé de manière conjoncturelle la situation des ménages aux revenus modestes. Un deuxième point que j'ajoute, c'est qu'on peut définir la précarité alimentaire comme l'accès insuffisant en quantité à une alimentation saine et en qualité. Et de plus, on observe de manière significative chez les plus défavorisés l'augmentation des pathologies souvent liées à une alimentation déséquilibrée ou de mauvaise qualité. Je cite en gros l'obésité, c'est connu, le diabète, les cancers, des maladies cardiovasculaires, et bien sûr qu'on y reviendra en abordant le régime de alimentation et santé. Les problématiques alimentaires constituent autant d'enjeux en termes d'autonomie, de souveraineté et même de démocratie alimentaire, puisque et nous le savons que trop, l'accès à une alimentation de qualité et en quantité suffisante, à des prix socialement acceptables, n'est pas assuré pour tous aujourd'hui. En troisième point, je voudrais simplement citer. Les sondages le disent en général, les consommateurs expriment la volonté d'acheter des produits sains, notamment bio et locaux. Or, les circuits courts et de proximité, donc qui permettent ces achats de produits locaux, ne représentent que 10% de la consommation alimentaire. Ça veut dire que 90% donc, de notre alimentation vient d'en dehors de notre territoire. On peut aussi noter, d'une manière plus globale, que les importations alimentaires en France ont doublé depuis 2000, en 2000. Actuellement, 40% de la consommation annuelle est importée. Et pour ce qui concerne la volaille, c'est 70%, la volaille en restauration hors domicile, dans les plats préparés. Et pour les fruits et légumes, 57% sont importés. Eh bien, on pourra aborder peut-être ce sujet avec le témoignage d'un producteur maraîcher. Et si les évolutions des pratiques alimentaires, comme l'augmentation de la consommation des produits transformés, s'expliquent pour une large part par des contraintes budgétaires que connaissent les Français, d'autre part, et je dirais sur mon quatrième point, ces pratiques alimentaires témoignent d'une part de la déconnexion entre l'acte de production et l'acte de consommation, et d'autre part, la méconnaissance de la valeur réelle de l'alimentation et des produits agricoles qui la constituent. Le témoignage d'Eneco Esquer, qui est producteur maraîcher, va nous éclairer là-dessus, sur cette distorsion entre la valeur de l'alimentation et les produits agricoles qui constituent cette alimentation. De plus, les mécanismes de construction des prix de l'alimentation au sein de chaque filière, selon son organisation et son fonctionnement, constitue un sujet important et qui est complexe, qui est soumis souvent à la confidentialité. C'est pourquoi on pourrait présenter des analyses sur la répartition de la valeur entre les différents opérateurs économiques. Et bien souvent, pour les agriculteurs, ça se traduit par des revenus qui ne leur permettent pas de vivre dignement de leur travail. Rappelons que 18% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, une fois qu'on a fait tous ces constats, comment peut-on répondre aux enjeux de l'alimentation? En premier lieu, on pourrait se situer au niveau général. Une première réponse concerne, ce que vous savez bien, la sensibilisation des consommateurs. L'éducation à l'alimentation et à la qualité des informations transmises aux consommateurs peuvent améliorer durablement des pratiques alimentaires bénéfiques pour la santé publique et au service de filières de production qui soient respectueuses de l'environnement, qui soient ancrées dans des territoires et rémunératrices pour les producteurs. Par exemple, le Nutri-Score, qui est mis en place depuis 2017, permet d'afficher la qualité nutritionnelle du produit et on peut dire que 94% des Français sont favorables à sa présence sur les produits. Donc, il y a un progrès avec le Nutri-Score qui se généralise, mais ça ne suffit pas. Une éducation à l'alimentation de qualité, durable et équilibrée dès le plus jeune âge est fondamentale. Et Isabelle Viala, l'infirmière, va nous éclairer sur cette question de l'alimentaire au niveau des tranches d'âge. D'une part, elle impacte les habitudes de consommation des adultes en devenir. D'autre part, elle constitue un levier efficace en matière de santé publique, en limitant les pathologies liées à l'alimentation qui surviennent chez les enfants et qui continueront de les affecter une fois adultes. Il y a aussi la place de la publicité. Les enfants sont soumis à un matraquage télévisé par les grosses firmes agroalimentaires qui influent grandement sur les achats des parents. Remarquez aussi les panneaux publicitaires en ville, celles qui sont placées dans les abribus autour des écoles. Regardez, vous serez édifiés. On se situe en milieu à un niveau général, mais on peut se situer aussi au niveau territorial. Et c'est pourquoi la mise en œuvre au niveau territorial de la politique de l'alimentation revêt une importance majeure. En effet, c'est un échelon territorial et souvent dans le cadre des PAT, c'est-à-dire des projets alimentaires territoriaux, que sont généralement initiés et développés des expériences innovantes de toute nature. Mais insuffisamment identifiées au niveau national, elles sont nombreuses pourtant, il y en a plus de 400, elles mériteraient d'être coordonnées, voire mutualisées, en vue d'en augmenter l'impact et de favoriser leur essaimage. Ces projets alimentaires territoriaux, le PAT, je ne sais pas si vous les connaissez, hein, institués par la loi d'avenir de l'agriculture de 2014, ont pour objectif l'ancrage territorial de l'alimentation. Il s'agit de construire des diagnostics au plus près des besoins des territoires. Un diagnostic partagé de la production agricole locale et du besoin alimentaire dans un bassin de vie ou de consommation, dit-on. Et de développer des systèmes alimentaires territoriaux, de la production à la consommation. C'est ce que nous verrons avec l'exposé de Céline Collet. Dans ce cadre, l'objectif est d'établir une chaîne de valeur économique, sociale et environnementale du producteur au consommateur. Parallèlement, on observe une spécialisation des régions et des exploitations. Les fermes de polyculture-élevage, qui étaient autrefois la norme, ont cédé la place aux exploitations spécialisées. Les agriculteurs qui sont ici présents peuvent en témoigner. Ces fermes de polyculture-élevage ne représentent plus qu'environ 10% du total, d'après le recensement agricole de 2020. Derrière les grandes cultures, qui sont à 25%, et aussi les élevages bovins, 20%, eux-mêmes en forte baisse. Il en découle en particulier que le rééquilibrage souhaitable des territoires sur la base de la polyculture-élevage est complexe à mettre en œuvre. Pourtant, ces fermes présentent une meilleure résilience face aux aléas climatiques et économiques. Et cette situation est exacerbée par la concurrence, y compris des pays européens. Elle encourage certains producteurs à s'orienter vers des filières exportatrices non alimentaires et entraîne la spécialisation de certaines régions vers des productions prioritairement destinées à approvisionner les industries agroalimentaires au détriment des productions alimentaires diversifiées à l'intention des marchés locaux. Il est ainsi estimé que le taux d'autonomie alimentaire des 100 premières aires urbaines françaises est en moyenne de 2%. Bon, c'est un petit peu plus ici pour ce qui nous concerne dans notre région. Alors que dans le même temps, 97% de leur agriculture locale sont consommées à l'extérieur du territoire. En troisième temps, on pourrait dire, mais il faut se situer au niveau des politiques publiques, il ne faut pas les oublier. Car on peut et on doit agir au niveau des politiques publiques. Par exemple, dans le cadre de France Relance, il y a eu un plan de protéines végétales à 10 ans, donc mis en place en 2020, doté de 100 millions d'euros, bon, qui est en cours. Il vise à réduire la dépendance aux importations, à renforcer l'autonomie des éleveurs pour l'alimentation de leurs animaux, à encourager les Français à augmenter leur consommation de protéines végétales, en substitution d'une partie des protéines animales pour veiller à des régimes alimentaires équilibrés. Il convient également d'inscrire ces modes de production-consommation dans le cadre de la réponse globale face au changement climatique. Alors, l'objectif de ce plan était de doubler les surfaces en plantes riches en protéines, faire la France un leader de la protéine végétale en alimentation humaine à l'horizon 2030. Bon, est-ce que ces objectifs seront atteints? Je ne suis pas sûr. Le Sénat, dans un rapport de mai 2020, il y a 5 ans, soulignait que les systèmes alimentaires construits au XXe siècle sont dans une impasse. Ils, je cite, « ne sont pas durables en termes de consommation de ressources naturelles, d'impact sur le climat et sur la biodiversité, ou encore de santé ». De plus, on observe un cloisonnement à la fois des acteurs et des responsabilités dans le domaine de la santé, de l'environnement, de l'économie, du social. Et cette situation interroge le modèle agro-industriel mondialisé qui domine notre système alimentaire. Cette situation souligne aussi l'importance de l'ancrage territorial pour que celles et ceux qui vivent maîtrisent l'espace dans ses dimensions environnementale, économique ou sociale. Et on peut le dire de nous-mêmes, bien sûr, qui sommes des acteurs d'un territoire au Pays Basque, en Béarn, dans les Landes ou ailleurs. Donc toutes ces points vont être abordés maintenant d'une manière plus pratique, plus simple, je dirais, plus élémentaire, parce que nous allons écouter successivement bon, un Echo Square, un producteur maraîcher Asparin, mais d'abord ce sera Isabelle Viala, l'infirmière dans notre monastère, et pour Céline Collet, dont je serai le porte-parole, chargée de projet du PAT, Projet Alimentaire Territorial Sud-Land Pays Basque, au sein du comité bassin d'emploi du Seignanx, basé à Tarnos. Et puis nous engagerons ensuite un débat général. Nous avons maintenant un exemple, c'est avec un maraîcher, il s'appelle Eneco Esquer, un maraîcher qui travaille sur la commune d'Asparin. C'est une personnalité que nous avons rencontrée sur les marchés, que nous pouvons rencontrer sur les marchés, spécialement les marchés d'Asparin, les marchés locaux. Il est arrivé dans le pays, il n'est pas originaire du pays, il est originaire de Bretagne, mais après avoir eu un parcours professionnel assez varié, notamment dans la restauration ou dans les transports, il s'est installé il y a quelques années sur le territoire en maraîchage. Après un essai sur la commune de Hélette, il a rejoint finalement la commune d'Asparin, où il s'est installé grâce à un agriculteur qui arrêtait sa production, qui prenait sa retraite, et qui lui a laissé quelques hectares et aussi des bâtiments pour son exploitation maraîchère. Donc il produit des légumes en plein champ, sous serre également, et il a aussi un verger qui sera productif dans 2 ans, qui a été planté il y a 3 ans, et qui sera productif dans 2 ans. Son exploitation, je l'ai personnellement visitée. Il a une variété de légumes qu'il produit donc en plein champ, je dirais, très variés selon les saisons. Ils sont en quantité, en qualité vraiment remarquables. Pour permettre non seulement l'alimentation de nombreuses familles qui viennent s'approvisionner sur les marchés d'Asparin, lui-même peut livrer si nécessaire à des clients, mais surtout c'est un travail très très important, et j'en suis moi-même témoin, notamment dans une zone où il est installé et qui est une zone libre, n'est-ce pas, et qui aussi... est un attrait pour des animaux sauvages. Bon, je ne vous cite pas lesquels, mais donc il faut se protéger, hein, que ce soit des cervidés ou des autres animaux, et pouvoir conserver l'exploitation donc de cette de ce maraîcher. Donc, ce que je peux dire à son sujet, c'est que il est profondément travailleur et engagé, et surtout une production de grande qualité, très appréciée des consommateurs. Ce qu'il faut cependant reconnaître, c'est que son travail est colossal, comme pour tout maraîcher, on n'imagine pas le travail que ça représente. Avant de recevoir les légumes sur un marché, il faut les préparer, mais il faut non seulement les préparer, mais il faut les cultiver, bien entendu, et les surveiller, etc., Et ça ne marche pas tout le temps, comme vous savez. Donc, un gros investissement en travail, des rémunérations finalement assez faibles, parce qu'il est obligé de se caler sur les prix du marché. Et quels sont les prix du marché? C'est ce qu'indiquent les supermarchés, c'est-à-dire les entités de distribution qui ont un pouvoir d'imposer des prix à leurs fournisseurs, en particulier, donc spécialement les producteurs maraîchers. Souvent aussi, ce sont des produits importés dans ces supermarchés. Donc, plus de la moitié des légumes en France sont importés. Donc, le prix de vente d'un produit maraîcher, des légumes, ne correspond pas au coût de production, ce qu'il faut savoir. Si c'est de qualité, si on connaît le producteur, bien sûr, on est prêt à donner un petit peu plus, bien entendu, mais pas énormément non plus. Donc, le producteur, malgré son talent, sa capacité, se trouve coincé par un système de commercial hein, qu'il est, dont il n'a aucune maîtrise. Cependant, la qualité du produit peut lui permettre d'avoir une clientèle fidèle et même se développant. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ce producteur maraîcher, comme il y en a beaucoup d'autres, bien entendu. Et je le remercie pour avoir participé à notre conférence débat, d'avoir pris sur son temps pour nous servir un petit peu des informations et aussi une participation en réponse à beaucoup d'auditeurs qui ont voulu aussi apporter leurs questionnements et aussi leur rapport concernant leur alimentation légumière. Maintenant, c'est l'exposé de Céline Collet, chargée de projet du projet alimentaire territorial Sud-Land de Pays Basque au sein du comité bassin d'emploi du Seignanx. Elle est basée à Tarnos. Je me ferai l'écho de sa prestation où elle a présenté ce projet alimentaire territorial donc, en disant que ce projet est animé par le comité bassin d'emploi de Seignanx. Il est labellisé niveau 2 par l'État. Et puis par ailleurs, en faveur du mieux manger, ils ont une action avec le projet Miam, dont je citerai un petit peu les attendus, qui a comme objectif de lutter contre la précarité alimentaire sur le territoire du Seignanx en rassemblant les acteurs locaux et trouver des solutions concrètes et durables. C'est depuis 2016 que le comité d'action, comité bassin d'emploi du Seignanx, porte et anime une démarche alimentaire sur le bassin de vie Sud-Land Pays Basque. Donc cette démarche donc, a été donc labellisée au niveau État, donc je disais, depuis 2022 en fait, c'est-à-dire ça fait 3 ans. Mais il faut préciser que cette action est menée en coopération avec un collectif d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Avec des collectivités locales, bien sûr. Et on peut citer aussi avec la SIC, Restaurant Solidaire Éole. Également la Cuisine Centrale de Tarnos. Également le CPIE Seignanx et Adour. Et encore la SIC Légumes Pro, qui sont tous les partenaires du projet, qui sont les premiers partenaires du projet, en fait. Alors, que vise cette démarche? Cette démarche vise à structurer des circuits alimentaires de proximité, particulièrement vers la restauration scolaire. Donc, dans ce projet, nous agissons pour apporter une alimentation de qualité au plus grand nombre, de contribuer à la transition agricole et alimentaire, et aussi, bien sûr, en lien, soutenir une agriculture rémunératrice, nourricière et durable. Il existe aussi un volet insertion de manière transversale dans ce projet, à travers notamment la création d'un atelier chantier d'insertion, je reviendrai, en maraîchage biologique, et aussi une activité d'insertion au sein du restaurant solidaire Éole. Alors le point de départ de ce projet, de cette action, c'est de relocaliser les débouchés qui était proposé par deux restaurants collectifs et une légumerie. Donc il s'agit du restaurant d'insertion Éole sous forme de SIC, société, non, c'est quoi SIC? C'est une société coopérative d'intérêt collectif. Ce restaurant produit 5 000 repas par jour à destination d'écoles, que ce soit à Bayonne, que ce soit à Arcang, que ce soit à Saint-Martin-de-Seignanx, que ce soit à Hondres, etc. Également à destination de crèches et aussi des livraisons à domicile. Et le deuxième restaurant, c'est la cuisine centrale municipale de Tarnos. Ces deux restaurants représentent à eux deux, notez bien, 7 200 repas produits par jour. Et depuis 2016, c'est-à-dire depuis 9 ans déjà, nous travaillons un ensemble de composantes de l'amont à l'aval en entrant en jeu pour produire et consommer localement. Et je vais citer nos objectifs. Donc, premier objectif, le développement de productions agricoles nourricières, on le comprend pour l'alimentation. Deuxièmement, Deuxième objectif, la préservation du foncier agricole dans le Senyang, ce qui est une action très importante vu l'urbanisation croissante de cette zone. Troisième objectif, le soutien à la création de nouvelles activités, qu'elles soient agricoles ou agroalimentaires, par la transformation des produits agricoles. Et puis, un autre objectif qui est essentiel, c'est la sensibilisation et la promotion auprès des consommateurs et auprès des citoyens et citoyennes locaux. Alors, bien sûr que, une fois qu'on a fixé ces objectifs, il faut préciser des axes de projet et aussi des exemples que je vous donnerai d'actions qui sont menées. Premier axe, on pourrait dire, du projet, c'est donc de structurer, de développer des filières d'approvisionnement en circuit de proximité et durable. Grâce à ces restaurants collectifs que je viens de citer, grâce aux habitants et aux salariés du pays. Alors, comme exemple, je donnerai augmenter la part d'approvisionnement en produits locaux ou locaux, bio, sur toutes les filières vers la restauration collective. Alors il s'agit des viandes, il s'agit des produits laitiers, il s'agit des légumes, il s'agit des huiles, il s'agit du poisson. Grâce à la planification des liens partenariaux avec les producteurs et avec des artisans. Exemple, la SIC Eco-Eol, eh bien en 2023, on avait 65% de bio, environ 45% local pour les scolaires. La cuisine centrale de Tarnos, c'est 50% de bio qui sont labellisés et locales, et tout ça dans les assiettes. Un autre exemple, c'est le développement d'outils locaux de transformation pour des filières locales Pays Basque Sud-Lande, par la création d'une légumerie qui s'appelle la SIC Légumes Pro. Eh bien, on va faire un travail de planification, de développement des filières avec 20 maraîchers locaux, ou maraîchères même, pour l'approvisionnement de la restauration collective et les professionnels. On a un projet en cours qui arrive à terme, donc c'est une légumerie conserverie surgélation pour renforcer l'offre en produits locaux. Donc c'est très important de ne pas avoir simplement d'être soumis à la production, mais aussi d'anticiper la consommation grâce au stockage, en conservation, à surgélation des légumes locaux. Autre exemple, eh bien, c'est développer, renforcer l'accessibilité aux produits locaux, notamment en faisant un état des lieux de la précarité alimentaire avec le projet MIAM, M-I-A-2-M, c'est-à-dire Mission d'ingénierie et animation pour le mieux manger. Autre exemple encore, il s'agit de sensibiliser, ou plutôt de diversifier la demande et les débouchés locaux par un travail sur la protéine végétale, la décarbonation des assiettes. Vous voyez, c'est très divers, c'est très ouvert, c'est très diversifié, hein, n'est-ce pas ? Pour ce qui concerne donc structurer, développer des filières d'approvisionnement en circuit de proximité et durable. Mais ça ne suffit pas de développer des filières, il s'agit aussi de sensibiliser, et ça c'est un axe, hein, mobiliser les publics pour une alimentation locale et durable. Il ne s'agit pas de faire, mais il s'agit aussi de permettre que ça soit fait par le public général. Donc on aura des exemples d'actions. Sensibilisation auprès des convives, des restaurants engagés dans le projet, car il ne s'agit pas simplement d'offrir des produits locaux, mais il s'agit aussi de faire prendre conscience aux clients, aux personnes qui sont bénéficiaires de ces restaurants collectifs, hein, de l'intérêt chez eux aussi d'engager un parcours de l'alimentation locale. Donc, rencontre avec des fournisseurs, des producteurs sur le temps du midi, des repas locaux, des modules en classe sur la consommation locale et responsable, participation au festival alimentaire donc dans le mois de novembre, c'est chaque année, des visites dans les fermes, etc. Autre exemple d'action, la sensibilisation d'acteurs professionnels de la restauration collective, c'est-à-dire par exemple des agents de cantine, ou des élus, ou des animations, pour faire des animations en circuit court, dans le restaurant métro locaux, etc. Autre exemple, c'est la participation citoyenne. Le comité bassin d'emploi porte une mission d'animation de la participation citoyenne à l'écolieu Lacoste à Tarnos, organise des animations ouvertes à tous et à toutes, par des conférences, des tenues de stand sur la consommation locale, etc. Donc vous voyez, c'est très très diversifié pour évidemment sensibiliser, mobiliser le plus grand nombre. Enfin, un autre axe, c'est de renforcer, et c'est très important, soutenir une agriculture locale, nourricière et durable. Et alors là, bien sûr, on est au niveau de l'amont. Il s'agit d'abord, par des actions, un exemple, de favoriser des projets agricoles nourriciers et durables. Par un soutien, par les débouchés, par exemple, par des reprises ou installations de fermes en agroécologie, en Pays Basque ou au Sud-Land. Il y a aussi un autre exemple, c'est la création de la ferme solidaire de l'écolieu Lacoste. C'est quoi ? Ben, c'est un atelier chantier d'insertion en maraîchage biologique qui se situe en cœur de ville à Tarnos, sur 2,5 hectares, alors qu'il y en a 10, sur 10 hectares qui ne sont préservés. Autre exemple encore, concernant donc l'agriculture locale, c'est d'anticiper et de mobiliser des possibilités foncières locales sur le Seignanx, dans le cadre d'une stratégie d'agriculture durable. On a un travail partenarial qui est mené par le CPIE Seignanx et Adour, et bien sûr la communauté de communes du Seignanx, pour la préservation des terres agricoles et le soutien à l'installation. Autre exemple d'activité, c'est la diversification d'ateliers agricoles, mise en test de culture de légumes secs. Donc vous voyez, c'est très très varié et très touchant beaucoup de réseaux, beaucoup de liens, beaucoup de personnes, que ce soit en amont ou en aval. Et enfin, je dirais comme autre axe de projet donc concernant cette orientation, il s'agit de développer la coopération en faveur des circuits alimentaires locaux. Alors cela se fait comment ? Ben, avec des partenaires, bien entendu. Les partenaires qui sont porteurs de la démarche alimentaire, par un plan d'action partagé, par un travail en lien régulier sur différents projets de territoire, en participant aussi à la feuille de route agricole et alimentaire de la communauté de communes des Seignanx. Développer la coopération aussi avec d'autres partenaires, c'est-à-dire les acteurs alimentaires et les agricoles du territoire, et bien sûr avec les acteurs institutionnels, bien sûr département, État. Alors, vous voyez, cet ensemble d'orientations nous aide à comprendre un peu mieux quel est ce projet alimentaire territorial, le PAT donc, du Sud-Land Pays Basque, avec un gros travail de sensibilisation, mais aussi on a déjà un exemple de durée, ça fait déjà 9 ans, et même davantage si on commence à comprendre d'où viennent, sur quoi sont ancrées ces actions, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail initial d'une vingtaine d'années de coopération, de solidarité, de relations entre différents partenaires dans le style ou plutôt dans l'orientation de l'économie sociale et solidaire, et donc qui permettent aujourd'hui d'avoir un nouveau éventail d'activités qui permettent une meilleure alimentation pour la population. Je vous remercie. Nous allons écouter maintenant Madame Isabelle Viala.
Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous parler aujourd'hui alimentation santé. C'est-à-dire de la manière dont nous mangeons, c'est-à-dire de la manière dont ce que nous mangeons influence notre bien-être, notre énergie et notre longévité. Et je voudrais faire une citation d'Hippocrate qui dit « Que ton aliment soit ta première médecine ». Autant dire que cette citation illustre l'importance de l'alimentation dans notre assiette. Il ne s'agit pas là de manger, mais bien de se nourrir. C'est un sujet qui nous concerne tous, dès l'âge de la diversification alimentaire aux alentours de 5 mois, avec les bonnes habitudes alimentaires, le développement du goût et de la diversité. Avec l'allongement de la vie, de l'espérance de vie, mieux vaut vivre et vieux en bonne santé. L'alimentation est un acte de la vie quotidienne, mais aussi un facteur de prévention majeur, puisqu'on estime aujourd'hui qu'elle pourrait réduire de 30 à 40% les maladies chroniques. Pourquoi notre alimentation influence-t-elle notre santé? Notre corps est une véritable usine qui fonctionne grâce à notre métabolisme qui permet de maintenir notre organisme en vie. Qu'est-ce que le métabolisme? En nutrition, le métabolisme désigne l'ensemble des processus de transformation biochimique qui ont lieu dans nos cellules. Ce métabolisme est garanti en partie par notre alimentation et les nutriments que nous ingérons, à l'image d'une voiture et du bon carburant. En fonction de la qualité et de la quantité de nos aliments, notre métabolisme va plus ou moins bien fonctionner. De plus, il va dépendre également de notre âge, de notre activité physique. Un bébé, un vieillard, un athlète n'auront pas les mêmes besoins énergétiques. En résumé, notre organisme fonctionne grâce aux nutriments apportés par notre alimentation, c'est-à-dire les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, les minéraux, mais aussi les fibres. Une alimentation déséquilibrée peut entraîner différents troubles. Fatigue, troubles du sommeil, diminution de la concentration et plus grave, des maladies cardiovasculaires, une surcharge pondérale, des maladies inflammatoires chroniques et même le cancer. À l'inverse, une alimentation équilibrée renforce notre système immunitaire, préserve la mémoire, soutient le système digestif et favorise une stabilité pondérale. Alors j'ai envie de vous dire que la bonne nouvelle dans tout cela, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour adopter des bonnes habitudes alimentaires. Les bases d'une alimentation équilibrée et saine. Une alimentation saine repose sur quelques grands principes simples. Manger varié, car aucun aliment peut apporter à lui seul tous les nutriments. Diversifier notre alimentation afin d'éviter les carences. Privilégier le fait maison, ne pas manger de plats transformés. Respecter la règle des portions, une assiette doit être composée d'un quart de protéines, un quart de céréales et la moitié de l'assiette doit être composée de légumes. Ne pas sauter de repas et s'hydrater. Quels sont les aliments bénéfiques? Les fruits et les légumes, qui sont riches en vitamines, en fibres et en antioxydants. Nous connaissons tous le slogan « manger 5 fruits et légumes par jour ». Les antioxydants qui luttent contre les radicaux libres, qui sont en quelque sorte les déchets de notre métabolisme. On sait aujourd'hui que les facteurs externes environnementaux, tels que le tabac, l'alcool, la pollution, le soleil, favorisent la production de radicaux libres. Cela provoque un stress oxydatif, comme de la rouille, qui accélère le vieillissement de nos cellules et induit une inflammation. Manger des aliments riches en antioxydants, les fruits et les légumes colorés qui contiennent des pigments jaunes, rouges, verts, bêta-carotène, lycopène, chlorophylle, qui sont protecteurs pour notre organisme. Les bonnes graisses, l'huile oméga-3, les huiles végétales, olives, colza, noix, les avocats, les oléagineux, les petits poissons gras comme les sardines, le maquereau. Les oméga-3 protègent le cœur, nos artères, le cerveau et nos articulations. Les céréales complètes ou semi-complètes, telles que le riz, les pâtes, le pain, le quinoa, le sarrasin, l'épeautre, le boulgour, le blé, qui rassasient et stabilisent notre glycémie. Les légumineuses, telles que les lentilles vertes, roses, les pois chiches, les haricots, blancs, rouges, les fèves, sont riches en protéines végétales et en fibres. Les produits fermentés, les yaourts, les produits laitiers, le kéfir, le chou, la choucroute sont excellents pour notre microbiote intestinal. Quels sont les aliments à limiter? Le sucre ajouté raffiné, présent dans les sodas, les gâteaux, les biscuits, caché dans les produits industriels et transformés tels que les sauces tomates, etc., favorise le risque de diabète, de surpoids, la fatigue, la diminution de la concentration et les maladies cardiovasculaires. Le sel en excès favorise l'hypertension, caché dans les produits transformés, préférez les alternatives pour agrémenter nos plats ou nos sauces. Alors quelques exemples d'alternatives au sel, le sel de potassium, les herbes aromatiques, les épices, les sels végétaux, le citron, etc. Les graisses saturées et trans, les viennoiseries, les fritures, les charcuteries et les graisses animales en excès favorisent les maladies cardiovasculaires et une dyslipidémie avec le mauvais cholestérol, LDL, qui est très mauvais pour nos artères. Les produits industriels transformés, trop gras, trop salés, trop sucrés, ils contiennent des additifs, des conservateurs, des édulcorants, mauvais pour notre santé et cancérogènes. Les sodas et les alcools à consommer de manière occasionnelle et toujours avec modération. Les grands modèles alimentaires sains, donc j'ai choisi deux modèles alimentaires sains pour notre organisme. Le régime méditerranéen que vous connaissez tous, à base de fruits et de légumes colorés, les légumes, l'huile d'olive, les poissons, les oléagineux, les graines de lin, de chia, le soja et dérivés, le tofu, les fèves de soja, les céréales, le riz, le couscous, le pain, les pâtes, la viande rouge à consommer une à deux fois par semaine, les viandes blanches le reste de la semaine. L'alimentation japonaise. L'île d'Okinawa dans le Pacifique est connue pour ses centenaires qui mènent un rythme de vie paisible. Leur choix alimentaire, riche en saveurs et en bienfaits pour le corps, est la clé d'une vie longue et épanouie. Aliments frais et équilibrés qui combinent une multitude de bons nutriments, de vitamines et de saveurs. Les fruits et les légumes colorés, les légumes à feuilles vertes, le chou calé, renforcent le système immunitaire. Les légumes racines tels que la patate douce, les poissons, les algues marines pleines d'iode, de calcium et de magnésium, et le tofu. Les fruits de mer riches en oméga 3, essentiels à la santé du cœur et du cerveau. Un principe fondamental dans la manière de manger qui consiste à remplir l'estomac à 80%. Éviter de trop manger et d'être repu, maintenir une activité physique, rester actif. Les enjeux actuels. Une alimentation ultra transformée, nos habitudes alimentaires ont évolué rapidement. Dans les pays occidentaux, nous menons une vie trépidante, on ne prend plus le temps ni de faire ses courses, ni de préparer ses repas, ni même de se mettre à table. Nous allons à la facilité et mangeons trop vite. L'influence du marketing, par la publicité et la stratégie du rayonnage dans les grands magasins, toujours plus de produits transformés, les industriels agroalimentaires rivalisent d'ingéniosité pour nous inviter à manger toujours plus en développant de nouveaux produits, de nouvelles saveurs qui donnent envie. Cela touche particulièrement les enfants, mais aussi les adultes. Lien entre alimentation et climat, une alimentation saine et souvent plus durable, consommée locale, agriculture raisonnée ou bio, de saison et surtout moins dépendante des ressources animales. En conclusion, diversifier son alimentation en mangeant de tout avec modération, boire et s'hydrater régulièrement, manger du fait maison, prendre le temps de cuisiner, partager les repas en famille et entre amis qui contribuent à maintenir un lien social et du plaisir. Au supermarché, lire les étiquettes des produits achetés. Plus la liste des ingrédients est courte, mieux c'est. Pensez à utiliser des applications telles que Yuka, tenir compte du Nutri-Score. Mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd'hui, on peut trouver des médecins qui se sont spécialisés en micronutrition pour vous orienter dans un rééquilibrage alimentaire, si nécessaire. On trouve aussi des naturopathes. La médecine intégrative peut être intéressante car elle combine les traitements conventionnels et les médecines complémentaires. Elle se concentre sur la prévention et le maintien de la santé. Elle favorise une prise en charge globale du corps mais aussi de l'esprit. Nous sommes corps, âme et esprit, prenons soin de l'ensemble qui est indissociable.
Oh, voilà, dans le public, je remarque une jeune fille qui est prête à dire quelque chose.
Jean-Michel, mon parrain, m'a demandé d'intervenir aujourd'hui quelques minutes après les conférences sur l'alimentation. Alors, tout d'abord, Rachel Deon Denelli. Nous avons commencé un petit projet autour de l'alimentation avec mes sœurs et ma mère dans le village de Hélette. Nous sommes allés interroger environ 35 personnes d'un certain âge qui vivent dans notre village. Certains sont natifs de Hélette ou des villages alentours et d'autres viennent du nord et de l'est de la France. Une autre personne d'Angleterre, par exemple. Nous leur avons demandé ce qu'ils mangeaient de leur enfance pour le petit déjeuner, pour le midi, le goûter et le dîner. Une question sur les repas de fête a été abordée, ainsi que celle de leur dessert préféré lorsqu'ils étaient petits. Nous avons ensuite demandé à une partie de ces personnes de nous transmettre une recette sucrée. Moi et mes sœurs, Nous avons donc réalisé 43 recettes sucrées avec des personnes du village dans leur propre cuisine. Nous avons appris à faire, par exemple, le gâteau basque, la rolse coca ou coq au lait, le riz au lait, les poires au vin, les beignets et les merveilles. Nous avons passé un excellent moment avec toutes ces personnes à apprendre un peu de leur vie et de leur savoir-faire. Ce fut un très beau moment de partage. Nous avons également réalisé des recherches autour des moulins de Hélette. Nous avons retrouvé cet été les 8 moulins qui étaient en activité en 1851. Nous avons eu la chance de voir un moulin d'Hélette fonctionner, car Marcel Lacroix a pu réparer le sien et le refaire tourner pour moudre de la farine de maïs sous nos yeux après plus de 40 ans. Nous sommes allés questionner les anciens épiciers ou enfants d'épiciers des années 60 pour comprendre les aliments qu'ils vendaient dans leur épicerie. Un petit travail autour des chocolateries est toujours en cours et nous avons retrouvé la trace de Marie Irigoyen, née à Hélette et qui serait à l'origine de la pâte sablée du célèbre gâteau basque. C'est donc un travail riche et passionnant que nous voudrions transmettre à notre tour, peut-être sous forme de livre. Nous avons conscience que l'alimentation, l'émotion qu'elle génère et la transmission de sa préparation sont reliées entre elles. Nous avons pu, grâce à ce projet, partager et rencontrer beaucoup de gens de Hélette. Ce projet visait à reconstituer l'histoire de toutes ces personnes, mais aussi à faire perdurer leurs coutumes culinaires en les transmettant. Cuisiner des produits locaux de qualité, simplement et de façon saine. Voilà bien l'esprit de l'ouvrage qui va paraître. Pour ma part, j'ai aimé cuisiner tous ces produits et établir le lien avec les personnes que je ne connaissais pas ou peu. Bien s'alimenter, c'est avant toute chose aimer cuisiner et partager le fruit du travail commun. C'est ce qui m'a animée tout au long du projet que j'ai mené avec mes sœurs et ma mère. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis d'apprendre. Je vous remercie de l'attention que vous avez accordée à mon témoignage.
Voilà, c'est ainsi que va s'achever notre conférence débat. Le débat qui a eu lieu après ces interventions a été riche et très divers, a permis à beaucoup de personnes de s'exprimer, apporter des précisions, oui, et aussi un dialogue à l'intérieur entre toutes les personnes présentes, c'est vrai. Il y a un an, nous avions fait une conférence débat de ce type, mais c'était sur le thème de l'agriculture, l'avenir de l'agriculture, et qui avait abordé donc un nombre de personnes assez important, donc des sujets importants et aussi quelquefois un peu clivants, il faut le dire. Mais cette année, le travail que nous avons conduit sur l'alimentation présenter un thème beaucoup plus, je dirais, consensuel, cependant, qui dit aussi l'intérêt et l'importance de cette question aujourd'hui. L'année prochaine, nous essaierons de faire encore d'autres conférences, bien sûr, à la demande donc des personnes qui sont des publics qui sont venus, sur un thème peut-être proche encore de l'alimentation, de l'agriculture, peut-être de l'agroalimentaire, la transformation des produits, la consommation. Enfin, nous verrons et nous vous donnons rendez-vous donc pour une autre fois. Merci à tous.
Vous venez de suivre l'alimentation, question d'aujourd'hui, enjeu pour demain, une conférence débat organisée en collaboration avec la communauté Notre-Dame de Belloc et Radio Lapourdi Iratia. C'était le samedi 22 novembre dernier. Conférence animée par frère Jean-Michel Borteiri.